Le Club de Tamani.
Le Club de Tamani.
Votre émission de tous les vendredis soirs sur Studio Tamani.
La culture.
Le sport.
La musique.
Les infos.
L'émission qui vous informe, cultive et divertit.
Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à votre rendez-vous culturel sur Studio Tamani. Ce soir, nous nous intéressons à un aspect essentiel de la culture malienne, ce canal par lequel sont véhiculées nos valeurs fondamentales. Il s'agit de la langue. Dans l'effervescence des grandes villes, l'apprentissage des langues maternelles se trouve confronté à de nombreuses difficultés. Entre l'école en français, les commerces en langue véhiculaire et l'influence des réseaux sociaux, les langues nationales semblent peu à peu perdre du terrain.
Des parents qui maîtrisent parfaitement leur langue d'origine, mais les enfants qui ne la comprennent plus ou qui hésitent à parler, la réalité est bien là.
Comment transmettre cet héritage linguistique lorsque le quotidien impose d'autres codes?
Pour en parler, nous recevons ce soir Dr Yacouba Dogoni, sociologue.
Avec lui, nous allons tenter de comprendre les causes de cette situation et explorer les pistes de solutions.
À la présentation, vous avez les duos Lala Diarra Touré et
Aïssata Diarra.
Gagné Kanté est à la technique.
Bonsoir à toutes et à tous. Aïcha, bonsoir.
Bonsoir Lala, comment tu vas?
Ça va, et toi?
Tu es rayonnante ce soir.
Ah bon? Mm-hmm. Mais c'est la dernière ligne droite du mois de Ramadan. Comment tu gères?
Bon, moi, comme tu me vois, mais toi, ton visage a dit autre chose. Quoi. Donc, c'est pas quel est ton secret.
D'accord. Mais est-ce que ton habit de fête est prêt?
Pas encore. Hein.
Ton tailleur te fait tourner?
Je t'ai dit. Hein. Chaque fois, il me dit, voilà, il n'y a pas de courant, il y a ceci, il y a cela.
Ah, mettez la main sur vos cœurs, sinon, c'est pas évident maintenant. Parce que tout le monde veut être servi et en même temps, c'est
on
pas évident.
On espère quand même.
D'accord.
Avoir les
j'espère que
temps.
Tu auras ton bazin pour la fête.
Espérons.
Et on va commencer fort. Ce soir, Aïcha.
Ah oui, n'est-ce pas, Lala?
Oui, imagine. Bako Danyon, Kassim Madi, Sori Kandia Kouyaté et Sekouba Bambino dans un seul titre. Hein. Ça ne peut donner que ce cocktail explosif que nous allons écouter à l'instant et ça s'appelle Django.
Django signé à l'instant les Mandeka, il faut le dire Lala, la musique contribue largement à la vulgarisation de notre histoire.
Totalement d'accord avec toi Aïcha, sinon Django fera dormir au niveau de
l'éclairé.
Alors nous allons continuer et nous accueillons à présent Moussama Ali Sissoko, il va nous passer en revue l'actualité de la semaine.
La revue de la presse.
Bonsoir Moussa Malé Sissoko, c'est un plaisir de te compter parmi nous.
Bonsoir Aïcha, bonsoir Lala Diarra Touré.
Alors Moussa Malé Sissoko, de quoi allons-nous parler ce soir?
À la une de la presse cette semaine, la crise du diesel au Mali. Depuis quelques jours, Bamako, la capitale, est touchée par une pénurie de gasoil sans précédent. Les files d'attente s'allongent devant les pompes de gasoil pendant que l'essence, elle coule à flot. La pénurie de gasoil, une crise passagère, s'interroge Mali 24. Le quotidien numérique indique qu'un vent d'inquiétude souffle sur les stations-service à Bamako et dans plusieurs capitales régionales. Bamako, à bout de souffle, a écrit Info Matin. Le quotidien privé estime que trouver du gasoil est devenu un véritable parcours du combattant. Le site Studio Tamani ajoute que cette situation commence déjà à perturber le transport en commun dans la capitale, car plus de 100 sotramas sont à l'arrêt à Bamako. Crise de carburant, Bamako replonge dans une pénurie de gasoil, titre le Ouagadou. Selon l'hebdomadaire, après des mois de tensions liées aux attaques contre des convois de citernes, Bamako replonge dans une pénurie de gasoil. À en croire le journal, le gasoil est au cœur de l'activité urbaine. Il alimente les transports publics, les groupes électrogènes des entreprises, des chantiers et une large partie du commerce informel. Cette nouvelle crise révèle des fragilités structurelles dans la gestion des approvisionnements énergétiques, a regretté le Ouagadou. Quand la mafia du gasoil défie les mesures, rétorque cet autre hebdomadaire Les Témoins, qui estime que chasser le naturel revient au galop, les pratiques spéculatives résistent malgré l'arsenal administratif censé les freiner, et le témoin de poursuivre que le phénomène refait peu à peu surface et sa résurgence s'annonce par une pénurie de gasoil qui, en réalité, n'a jamais cessé d'échapper aux mesures de régulation de la distribution. Pourtant, 11 385 000 litres de gasoil sont disponibles à Bamako, rapporte l'indicateur du Renouveau. Pour ce quotidien privé, ces chiffres ont été révélés par le Comité régional de gestion des crises et catastrophes lors de sa réunion hebdomadaire du 20 février au 8 mars 2026. Les Échos, de son côté, parlent d'une augmentation imminente des prix des produits pétroliers. L'édition quotidienne de Diamana avance comme argument les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, par lequel transitent près de la moitié des navires pétroliers mondiaux, a provoqué une nouvelle flambée des cours, préviennent Les Échos. C'est tout pour cette page dédiée à la revue de la presse. Lala et Aïcha, bonne suite d'émission.
Merci Moussa Malessizoko et à tout à l'heure pour la version en langue nationale Bamanankan.
Et Aïcha, après les infos, nous allons dans les coulisses de l'info.
Les coulisses de l'info.
Et c'est un honneur et un plaisir de recevoir Fatih Yattara. Fatih, bonsoir.
Bonsoir Lala, bonsoir Aïcha, bonsoir à notre invité.
Comment vas-tu?
Je vais bien, alhamdoulilah.
D'accord, de quoi allons-nous parler ce soir?
Lala, ce soir, la rubrique éducation aux médias s'intéresse au rôle des médias dans la société malienne. Comme vous le savez, notre société est aujourd'hui confrontée à plusieurs défis. La dépravation de mœurs, les crises sociales, la cherté de la vie, entre autres réalités. Face à cette situation, une question essentielle s'impose. Quelle est la responsabilité des médias et des journalistes dans ce contexte? Et surtout, comment peuvent-ils accomplir efficacement leur mission d'information et de sensibilisation? Pour avoir des éléments de réponse, nous avons tendu notre micro au doyen Mouriba Koulibaly de la rédaction du quotidien national L'Essor.
Concernant la dépravation des mœurs, le programme d'éducation volaire et l'année 2026 dédiée à la culture et à l'éducation sont des tremplins et des opportunités, à mon avis, à saisir pour promouvoir ces idées en vue d'atteindre, à défaut d'éradiquer ce phénomène social. Les autorités ont ouvert la voie, il reste aux journalistes et aux médias de s'investir pour juguler ce phénomène qui touche plus particulièrement la couche juvénile. S'agissant des crises, les journalistes et les médias doivent contribuer à leur apaisement par une information de qualité qui permet de surmonter ces difficultés. La cherté de la vie comprend plusieurs volets. Il ne s'agit pas seulement du prix des produits de première nécessité et leur accès à un plus grand nombre de citoyens, mais aussi de tous les biens et services qui concourent à la promotion du bien-être général de la population. Les journalistes et les médias doivent encourager les autorités à rendre ces biens et services accessibles et à un coût raisonnable à un plus grand nombre de citoyens, indépendamment de leurs moyens financiers. Un accent particulier doit être mis sur les couches vulnérables, à savoir les personnes démunies, les personnes vivant avec handicap, les personnes vivant avec des maladies incurables comme le cancer, le diabète, la drépanocytose, les insuffisants rénaux ou cardiaques pour ne citer que celles-ci. Pour mener à bien cette mission, les journalistes doivent être bien formés, ce qui est à mon avis un préalable cardinal. Ils doivent avoir une connaissance approfondie et diversifiée des sujets qu'ils traitent. À cela, il faut ajouter la protection et la sécurité dans l'exercice de leur profession. Cette tâche incombe à l'État de promouvoir les instruments législatifs qui confortent le journaliste dans l'exercice de son métier. Ceci permet d'éviter les dérapages et les atteintes à la dignité et à l'honorabilité des citoyens. La Maison de la Presse et les Fêtières s'implique activement pour la formation de qualité des hommes et femmes des médias. Ceci est à saluer.
C'était là notre entretien avec notre doyen Mouriba Koulibaly. Merci.
Merci beaucoup Fatih Yattara et à la semaine prochaine. Plaise à Dieu. À présent, place à l'invité culture.
L'invité culture.
Des peuls qui ne parlent pas poulard, des oreilles qui ne parlent pas songaï, on les retrouve couramment sous nos cieux, principalement dans les agglomérations. Et nous en parlons ce soir avec Dr Yacouba Dogoni, le sociologue. Bonsoir docteur.
Bonsoir Lala, bonsoir Aïssata.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Bon, c'est moi qui vous remercie. Moi, je me rends compte qu'il y a une grande complicité entre vous deux maintenant.
Merci. Alors, d'entrée de jeu, est-ce exact que l'on assiste actuellement au déclin de nos langues maternelles en milieu urbain, docteur?
Je suis en train de déchirer déjà mon note. Bon, ça se comprend aussi parce que là, c'est le mois de carême. Moi, je souhaite un très bon mois de carême, de ramadan à tous les musulmans aussi, ainsi que aussi la communauté chrétienne aussi qui célèbre également le mois de carême. Pour répondre à votre question, je dirais que oui, cet aspect peut exister, mais il faut reconnaître que c'est une problématique qui touche beaucoup plus de communautés telles que, par exemple, les communautés qui ne sont pas habituellement des communautés madingo, parce qu'on le sait très bien que quand on prend, par exemple, les communautés comme les sonikés, ne sont pas beaucoup plus touchés par ce phénomène-là. Mm-hmm. Par contre, des communautés comme par exemple les Sorailles qui sont de l'Empire Songhaï, mais aussi la communauté issue des empires du sud du pays comme par exemple le royaume du Kénédougou et tout ça, on voit que ces communautés-là, lorsqu'elles se retrouvent ici à Bamako, il y a beaucoup de chances que les enfants puissent perdre cette valeur culturelle qui est la transmission de la langue maternelle. Mm-hmm. Donc ce phénomène existe beaucoup plus parce que là, on constate aussi qu'il y a une forte influence de la ville sur l'apprentissage. Le fait que les parents n'ont pas assez de temps à consacrer à leurs enfants, ça c'est un aspect. L'autre aspect, c'est aussi le fait que les enfants sont socialisés dans un cercle beaucoup plus restreint où la valeur éducative communautaire commence à prendre le dessus sur... Je veux dire qu'ils priment sur les individualités, mm-hmm. comme par exemple à l'école. Par exemple, à l'école, on apprend que le français, maintenant, les langues sont souvent marginalisées à cause aussi des programmes que nous enseignons. Mm-hmm. Donc, tous ces phénomènes-là font aujourd'hui que les enfants ont tendance à ne pas vraiment parler la langue de leurs parents. Voilà. Et c'est aussi lié au phénomène urbain, comme vous l'avez cité.
D'accord. Justement, l'école est souvent pointée du doigt, mais est-ce que l'apprentissage exclusivement en français peut être mis en cause?
Oui, ça on peut accuser, mais comme vous le savez, déjà que nous avons élaboré des programmes au niveau de l'enseignement primaire où mm-hmm. certains enseignements se font en langue nationale. Mais tout cela veut dire tout simplement que même si vous êtes d'une autre communauté, si vous êtes inscrit dans des écoles où la langue bamanankan est enseignée, mm-hmm. donc est considérée comme étant le médium d'enseignement, donc forcément vous serez confronté à ces problèmes-là. Donc l'école est peut-être considérée comme la principale responsable de cela en centre urbain, comme par exemple ici à Bamako. À Bamako, ici, l'enseignement se fait en bamanankan si on doit aller dans les systèmes curriculum. Mais si on sort de ces cadres-là qu'on voit par exemple dans d'autres régions comme par exemple à Tombouctou ou bien qu'on aille à Kaï et tout ça, on va voir qu'il y a d'autres langues aussi qui peuvent influencer l'apprentissage de l'élève.
D'accord. Mais docteur, qu'est-ce qui motive certains parents à ne parler que le français à leurs enfants?
Moi, je pense que ces parents-là font ça pour le bonheur de leurs enfants. Parce que là, les parents aussi se retrouvent dans un cercle beaucoup plus ouvert. Mm-hmm. Et ce cercle ouvert fait aussi que les parents ont tendance à créer des ouvertures pour leurs enfants. Comme par exemple, si vous travaillez par exemple dans un système français, mm-hmm. Forcément vous avez tendance à parler, à communiquer avec les enfants pour pouvoir perpétuer cette lignée que vous êtes en train de créer. Le fait de parler de ces langues-là à les enfants, ça leur permet vraiment de faciliter l'intégration, non seulement au niveau de leur école, mais ça va faciliter également leur
Mais est-ce que ce n'est pas aussi le fruit d'un certain complexe, docteur?
On peut parler de ça aussi, on peut parler du complexe, mais ce que j'ai constaté, par exemple, il y a des professeurs d'allemand, par exemple, au niveau de l'université, qu'ils veulent vraiment montrer à leurs enfants la matière dont ils enseignent à l'université. Mm-hmm. Donc, c'est une manière aussi de communiquer avec l'enfant de façon indirecte par rapport maintenant à ce que la personne fait comme profession. Mm-hmm. Ça, c'est un aspect. Mais si on revient dans la communauté, en fait, ces gens-là veulent toujours créer une forme de différence entre les enfants et les enfants des autres. Mais comme vous le savez, déjà, même à l'université, hein, je ne parlerai pas des universités maliennes, mais dans certaines universités, par exemple, ils ont ce qu'on appelle l'enseignement des langues étrangères.
Absolument.
Voilà, des langues étrangères sont enseignées. Ces langues étrangères servent maintenant à créer un cadre commercial pour les apprenants. Mm-hmm. C'est comme, par exemple, les élèves, les étudiants qui veulent évoluer dans les business international, mm-hmm. donc sont obligés d'apprendre ces langues-là. Absolument. Ça leur permet vraiment d'éviter de payer des sommes faramineuses pour l'interpréteur et tout ça au niveau de ces pays-là.
Absolument.
Donc, le complexe peut exister, mm-hmm. mais ce n'est pas un complexe d'infériorité, c'est plutôt une façon de montrer sa suprématie par rapport maintenant aux autres enfants.
Docteur, en ville, très souvent, c'est des mariages mixtes. Hein. Quelle langue finit par avoir raison quand les deux parents n'ont pas les mêmes langues maternelles? maternelle?
Moi, je pense que les enfants sont plus chanceux dans ces cas-là. Mm-hmm. Parce que si les enfants apprennent la langue de leurs parents, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Mm-hmm. Mais comme vous l'avez cité, hein, c'est un mariage mixte. Si c'est un mariage mixte, les enfants vont se retrouver entre les deux parents. Forcément, et la charge communicationnelle va être plus importante pour eux. Qu'est-ce que moi je voudrais dire par là? Si par exemple vous êtes soirée, vous êtes marié par exemple à un monsieur qui est Dogon, mm-hmm. vous avez tendance maintenant à transmettre votre langue à l'enfant. Moi chez moi par exemple, moi je suis Samogo, mais tous mes enfants comprennent ma langue. Mm-hmm. Et les mamans qui est Peul aussi, les enfants comprennent également la langue Peul. Donc ça veut dire que c'est un avantage souvent pour les enfants, mm-hmm. mais il faut être beaucoup plus méthodique à ce niveau-là. Mm-hmm. Dernièrement, moi j'étais obligé d'initier même madame à appliquer la même technique. Parce que là, souvent, si la technique manque seulement, ça va se transformer en violence.
Oui.
C'est comme, par exemple, vous voulez communiquer avec l'enfant, l'enfant ne comprend pas, mm-hmm. mais vous voulez forcément... Parce qu'il y a une compétition qui se crée entre les parents.
Absolument.
Chacun veut enseigner sa langue à l'enfant. Mm-hmm. Donc, vous allez voir que l'enfant sera considéré comme étant un objet de compétition. Mm-hmm. Et finalement, si on n'a pas la bonne méthode, donc ça va bouleverser la mentalité de l'enfant. C'est pourquoi il faut être un grand pédagogue à ce niveau-là, mm-hmm. pour que les enfants puissent passer facilement d'une langue à une autre. Maintenant, ce qui pose problème, ça, ce sont nos particularités linguistiques. Et là, les enfants sont obligés maintenant de les apprendre parce que là, nous voulons vraiment que ces enfants-là parlent la langue pour pouvoir créer une certaine forme de complicité mm-hmm. au sein de la famille, mais aussi pour pouvoir communiquer sans pourtant que les cornes ne soient accessibles par les sérieux.
Oui.
Merci beaucoup, Dr Dogoni, pour ces premières réponses. Nous marquons une pause musicale à présent, Lala.
Oui, Aïcha, mais connais-tu quel est Tigidjabaté?
Ah oui, mais ça, c'est le Mali profond, Lala. Il fut un grand joueur de balafon.
Tout à fait, Aïcha, et nous allons écouter ensemble son titre « Kouladjan ».
Décédé en 2012, Lala, c'était la fée Kletigi Djabaté dans les titres Kouladjan.
Sur la platine de Gagny Kanté, nous poursuivons à présent la série des questions-réponses avec l'invité qui, je rappelle, est Dr Yacouba Dogoni, il est sociologue.
Alors docteur, quelle est donc la part des responsabilités des médias, de la musique moderne et d'Internet dans cette situation?
Bon, si on doit décrire la situation, je ne pense pas que ces médias-là ont pu jouer de rôle supplémentaire déjà dans ça. Mm-hmm. Parce que là, je me dis que le point de départ, c'est la socialisation de l'enfant. Les médias, en fait, ce ne sont pas des instruments qui se parlent comme ça, non. Ce sont des gens qui sont derrière les micros, ce sont des gens qui sont derrière les micros pour chanter, pour véhiculer des messages et tout ça. Les médias, à ce niveau-là, si on doit parler vraiment de leur responsabilité, c'est aussi le fait qu'il y a une certaine forme de transportation mm-hmm. des valeurs extérieures et que ces valeurs-là sont imposées, par exemple, à nous. Vous prenez, par exemple, ceux-là qui sont dans le rap et tout ça, mm-hmm. ont tendance même à chanter en bamana quand on ne comprend même pas. On se pose la question, est-ce que c'est même du bamana?
On renverse les mots.
Oui, on renverse les mots. Tout ça, ce sont des choses que nous observons de nos jours mm-hmm. et que la musique moderne peut être vraiment un élément dans cette situation de déperdition linguistique. Donc pour moi, il faut que nous insistions un peu sur nous-mêmes et sur nos enfants pour que ceci puisse être forgé depuis le départ. Par exemple, moi, j'ai dit, qu'est-ce que l'enfant a à faire avec le téléphone? Vous allez voir que l'enfant utilise le téléphone comme étant vraiment un objet de compagnon. Si c'est le cas, donc c'est l'enfant, en fait, qui sera socialisé par le téléphone et par le contenu du téléphone. Alors, je me dis que non, il faut d'abord commencer par éloigner l'enfant du téléphone. Si on arrive à faire ça, je pense que ça peut être un pas. C'est la raison pour laquelle il faut peut-être penser déjà à dire que non. Moi aussi, les médias ont leurs responsabilités. que ce soit la musique, que ce soit l'Internet et tout ça. Moi, je pense que la plus grosse responsabilité nous incombe. Nous qui sommes des parents, nous qui sommes des agents de socialisation, etc., etc. C'est nous qui devons vraiment travailler à ce que ces médias ne puissent pas produire vraiment des effets négatifs sur l'apprentissage de la langue maternelle.
D'accord. Quelles peuvent être les conséquences directes de cette déperdition?
Les conséquences sont énormes. Comme je l'ai dit, il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de complicité.
Absolument.
L'enfant est égaré. L'une des conséquences, c'est quoi? C'est que l'enfant, en tant que tel, n'a plus de particularité. L'enfant devient maintenant un élément collectif. C'est comme, par exemple, à l'école, l'enfant n'apprend que maintenant les Bamanankan avec les autres et les Français avec l'enseignant. Alors, en dehors de cela, l'enfant ne peut pas dire aux autres, vous voyez, ce qu'il est. Il peut dire maintenant ce qui sont ses parents, mais ce que lui-même, il ne peut pas expliquer aux autres enfants. Moi, par exemple, si mes enfants font à l'école, j'arrive, la première question que je pose, je la pose dans ma langue maternelle. Je la pose devant tous les enfants, devant les enseignants, devant tout le monde. Et j'interagis avec l'enfant pour comprendre d'abord le contexte dans lequel la situation est arrivée. Et comme ça, avec sa réponse, ça me permet maintenant de le juger ou bien même de faire des parallèles avec ce que l'enseignant m'a raconté comme étant la faute commise.
Absolument.
Maintenant, s'il n'y a pas cette complicité, à ce moment, ça serait très grave. À un moment donné, le directeur m'avait dit une fois que « Ah, mais Dogoni, vous êtes complice avec votre... » J'ai dit « Oui, c'est parce que là, la langue, pour moi, c'est d'abord un élément de complicité. Pour pouvoir mieux cadrer l'enfant, pour pouvoir mieux partager certaines de ses informations, il faut que l'enfant commence à parler d'abord à la
Justement, comment vous avez établi cette complicité-là en famille? Comment est-ce que la transmission se fait de façon très pédagogique?
Moi, je les ai appris quand j'étais d'abord à l'IFM, ensuite j'ai continué. Mais j'ai toujours été animé par un sentiment d'appartenance ethnique. J'ai toujours dit que j'appartiens à une ethnie. J'ai eu la chance d'apprendre cette langue-là avec mes parents. Mm-hmm. Et forcément, mes enfants doivent vraiment, même s'ils ne parlent pas forcément la langue, ils doivent quand même la comprendre.
C'est un défi.
Voilà, donc c'est ce que moi je me suis fixé comme défi. Et aujourd'hui, j'ai la chance que les enfants, non seulement ils comprennent, mais ils parlent de la langue. Et aussi, j'ai dit, il ne faudra pas toujours rompre avec le cordon ombilical depuis la base. Mm-hmm. Qu'est-ce que moi je voudrais dire ici? Si vous prenez par exemple certains de nos parents qui sont de Sikasso, qui sont de Tombouctou, qui sont de Gao, ils n'iront jamais dans leur village, ils ne retournent jamais dans leur village. Ils vont rester ici à Bamako. Si tu parles à ceux qui sont du nord, ils vont toujours dire que non, il y a l'insécurité, on ne peut pas partir, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il faut d'abord montrer les chemins à l'enfant. Si vous n'avez pas suffisamment de temps à enseigner cette langue-là à l'enfant, profitez des vacances pour les envoyer.
C'est vrai que quand on est dans un milieu où la langue est couramment parlée, oui, on a de fortes chances.
Surtout pour les enfants, les enfants n'ont pas besoin de 3 mois ou de 4 mois pour comprendre la langue. Il suffit de les mettre dans la communauté. Mm-hmm. Au bout d'un mois, vous allez poser la question, est-ce que c'est votre propre fils? Donc, ils vont communiquer, ils vont échanger. Et finalement, lui aussi, il va commencer à apprendre, à percevoir maintenant les codes. Et finalement, la transmission va être vraiment de façon automatique.
Oui.
C'est plus difficile pour les parents, mais c'est plus facile pour les enfants.
Merci beaucoup, Dr Yacouba Dogoni, pour toutes ces précisions. Mais nous restons ensemble, car l'émission n'est pas encore finie. Et Aïcha, à présent, nous prenons le chemin des stades. Le coach sportif le plus performant est dans la place. Khalifa Guita, bonsoir.
Quel qualificatif. Bonsoir Lala, bonsoir à tous nos auditeurs également.
Alors, qu'est-ce qui a fait l'actualité sportive cette semaine?
Première victoire des Aigles d'âme du Mali enregistrée ce jeudi aux éliminatoires de la Coupe du Monde féminine de basketball FIBA 2026. Quart de finale aller de la Ligue des champions africaine, le stade malien de Bamako est en déplacement en Afrique du Sud. Et puis, on parlera de taekwondo.
Les Aigles d'âme du Mali ont battu ce jeudi la République tchèque 77-64 aux éliminatoires de la Coupe du monde féminine de basketball FIBA 2026 à Wuhan, en Chine.
Après une première sortie ratée face au pays hôte, la Chine, 81-68, les Aigles d'âme du Mali ont réagi, vous l'avez dit, ce jeudi en s'imposant face à la République tchèque 77-64 lors de leur deuxième match solide, déterminé et très engagé. Les Maliennes ont dominé la rencontre grâce à leur intensité et leur esprit collectif. Cette victoire scellée est capitale pour la suite de la compétition. Le sélectionneur national Oumarou Sidéa et ses joueuses devront tout donner pour enchaîner une deuxième victoire ce samedi contre la Belgique à partir de 8h30.
Et Khalifa, le stade malien de Bamako joue dans quelques minutes contre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des champions africaine.
Coup d'envoi à 18h GMT, le stade malien dispute les quarts de finale de la Ligue des champions africaine pour la première fois. Mais les Sud-Africains sont habitués à cette phase des compétitions continentales. Ils ont été vainqueurs de cette épreuve en 2016 et vice-champions la saison dernière. dernière. Toute chose qui laisse à croire que les Sendans chercheront à aller plus loin. Toutefois, en déplacement, les Blancs de Bamako doivent aborder cette manche aller avec la plus belle des manières. Le match retour aura lieu le dimanche 22 mars à Bamako. Par ailleurs, les 16e de finale de la Coupe du Mali débutent ce week-end. Plusieurs rencontres sont prévues.
Et du taekwondo pour terminer, Khalifa.
Oui, les équipes nationales des cadets juniors du Mali participent au camp de formation pour la jeunesse au Sénégal, débuté le 9 mars dernier à Dakar. Cette session de formation qui se poursuit jusqu'au 18 mars 2026 vise à renforcer les aptitudes techniques et tactiques des jeunes athlètes. Initiée par l'Union africaine de taekwondo, cette formation va contribuer au renforcement de la coopération entre les fédérations nationales pour le développement du taekwondo à travers le continent. Les pays participants à cette session de formation sont l'Angola, le Congo, la Guinée, les Lesotho, le Sénégal et le Mali. C'est ce qu'il fallait retenir pour aujourd'hui, Lala Touré.
Merci beaucoup, Khalifa Goïta, pour toutes ces informations sportives. Et bon week-end à toi. Aïcha?
Oui, Khalifa.
La transition est toute trouvée pour partir en musique. Et nous allons écouter cette fois-ci Ali Farka et Oumou Sangaré dans Chéri. Pour ce titre intemporel dans lequel Ali Farka Touré et Oumou Sangaré chantent l'amour en soirée.
Comme quoi
la musique n'a pas de frontières. Et il est temps de retrouver Moussa Malé Sissoko pour la revue de la presse en langue nationale Bamanankan.
La revue de la presse.
Moussa Malé Sissoko, Inoula.
En bas, Aïcha, Lala, Aounoula.
Koruba City. Alors, comment est-ce que vous avez fait ce que vous avez fait?
Nous sommes allés dans le cas où vous avez fait ce que vous avez fait. Nous sommes allés dans le cas où vous avez fait ce que vous avez fait. Nous sommes allés dans le cas où vous avez fait. Avec les demandes de Bamako, Faba Kononana, Gazoual Ko Dese, Okoni, Nyonyan de Kosobe. Au Gelea Kama, Mobili Chama de Jolembe Station, ni Gazoual Nini. Nga Obenata, Essence Konubeka Ferre. Mali 24, Aleba Ereninga. Ko nogo ni gelea yin ko watila ko de doa ni kuna fondi sebe mbe bololo kan aleba ira kafo ko ni koni nanani kamana gaye Bamako konana ani mali duguba chaman konana info matin alebo kuma sonjila ko Bamako koni degunendo ko sabula ka gazwali soro ka kika bolma fen konana ko kera kataba nani sijo tamani ka kuna fondi sebe mbe bololo kan ofene ira kafo ni kololo bade sera transport en commun o mano doye sotra ma taxi ani dugutaka mobilu kaka chani sotrama kemeye ode jolendo kuna fondi sebe mbebo doa kunkono shenkele nuka makole wagadu alego ko karibiranko gelea ye Bamako soro kokura koni ataka laje ko gazwali ye tajie min nafaka bon kosobe duguba konna ula sabula aledebeke bolmafeon konnana grupu elektrojenu kono chanche ula sojo oro ula wagadu ba irakafo ko ningele akura minnana ko ba irakafo kulumi sigilendo ka tajiko noroya omaseka ka barake konyuma le temoen alebo kuma soso ka irakafo ko mado de sikilembe ka fere munu tigera jamana nyema ufe kulula gushi ko mamunu be taji shuen walma ka son yele uyere ka nafakama ko obela jelembe sena kasoro agachani taji litri million tani keleni koye obe Bamako anyo samanka bo l'indicateur du renouveau kononana akafola o jate nunu dira komite mi sikilendo Bamako kataji ko nyanabo aninka kasara okumbe oluka ladala nyoyela les echos ale koni la sominike kaira kafo koni wati labanununa ko taji songobi songa yele ko kele mimbe Moyen-Orient, Iran, Israël ani Amérique jamana ni nyoronche ko o kololo bisonga nani o walenye sisan ko taji songo yere yelena jamana dola ni ndebe dansigi angabi revue de la presse la au kambe do akumere
initie Moussa Malé Sissoko kani kuna fonia jele nununa ambe kambe da nyoronye do akumere ni ala manga jonya jona.
Nous voilà pratiquement au terme de cette émission Lala. Alors mais avant de rendre l'antenne, nous donnons la parole à notre invité docteur Yakuba Dogoni pour ses propos conclusif, docteur.
Bon, moi, je vous remercie très sincèrement hein, parce que je ne pouvais pas imaginer que votre pensée avait touché vraiment cet aspect-là, qui est un aspect très très important. Mm-hmm. Il faut penser, mais il faut penser bon. Penser bon veut dire quoi? Les sujets que les gens négligent, mm-hmm. ce sont des sujets très pertinents. Comme par exemple le sujet, le déclin des langues, les langues maternelles en milieu urbain. Le milieu urbain commence à façonner les enfants. Le milieu urbain commence même à transformer les enfants. Le milieu urbain commence à modifier nos valeurs. Donc si on se laisse dans ça, forcément ce sera la déperdition à tous les niveaux. C'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui, à travers vraiment cette émission que vous avez organisée, que les parents essaient vraiment de communiquer avec les enfants. Les enfants vont apprendre le français, l'allemand, l'anglais à l'école. Mais les enfants n'ont pas accès à nos codes, les codes ethniques. Les codes linguistiques, les enfants n'en ont pas accès. Maintenant, c'est pour les permettre vraiment d'accéder à ces codes-là, c'est à travers la communication que nous allons créer au sein de nos familles. Parce que la famille, c'est une autre sphère d'apprentissage qui est carrément différente maintenant de ce que les enfants apprennent à l'école. Mm-hmm. Donc, c'est pourquoi je dis encore, quand les enfants arrivent de l'école, essayez de communiquer avec eux dans vos langues. Et c'est comme ça que les enfants vont apprendre. Et ça ne se fait pas avec violence.
Et c'est sur ces mots que se referment les portes du Club de Tamani de ce vendredi. Merci d'avoir prêté oreille attentive. Et nous avons compris à la lumière des explications de notre invité, Dr Yacouba Dogouni, que parler sa langue maternelle, ce n'est pas seulement communiquer, c'est transmettre sa vision du monde, des proverbes et une sagesse que nulle autre langue ne peut traduire parfaitement. À la coordination, Maria Maïga, mise en onde Gagné Kanté, présentation à Esset Adjara et Lala Diara Touré. Prenez soin de vous et des autres et à très vite pour un autre numéro du Club de Tamani. Thank you.